Épisode 413. J'ai failli mettre le même numéro que la semaine dernière. Heureusement, quelqu'un m'a dit que c'était l'épisode 413. Soyez les bienvenus. 413. Je rigole. Alors évidemment, vous nous écoutez en podcast et vous n'avez pas l'image, et tant mieux pour vous quelque part, parce que voilà, ça laisse un peu de magie derrière tout ça. C'est un peu le principe du podcast audio. Et puis ceux qui nous ont vus ou qui nous regardent en vidéo ou qui jettent de temps en temps un petit coup d'œil ont vu qu'effectivement depuis la semaine dernière, on a refait un petit peu les peintures, hein, comme on dit en début de saison, on fait souvent ça, et que voilà, il y a quelques artifices, on va dire, qui mais j'en dis pas plus, qui permettent à nos chroniqueurs de se mettre un petit peu en avant. Avant même qu'il soit présenté, à savoir d'un côté Aurélien. Bonjour Aurélien.
Non, c'est pas moi qui me suis mis en avant, bonjour à tous.
c'est
l'autre.
Et puis vous avez reconnu le rire caractéristique du Suisse, voilà. De l'Helvète.
Salut vous deux.
Thierry Weber est avec nous. Je dis Weber parce qu'on dit Weber en Belgique. On pourrait dire Thierry Weber pour que tout le monde comprenne bien qu'il s'agit d'un W. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est un épisode très complet. On a changé un tout petit peu. On a fait évoluer la formule. Certains l'ont remarqué avec l'épisode 412. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Il reste à disposition, évidemment. On a un petit peu fait évoluer la formule. Il y a un sujet un peu plus conséquent dans un épisode maintenant. Après, bien sûr, notre traditionnelle revue de presse sous forme d'abécédaire. Aujourd'hui, on vous parle de Google qui fête ses 25 ans. Il y a plein de choses à dire sur Google. Alors, je tiens à le préciser parce que certains ont déjà imaginé que c'était cette partie de l'épisode, c'était un peu l'occasion de se rappeler des vieilles choses. C'était la séquence vieux C, comme on dit chez nous. Non, ce n'est pas le cas. Il se trouve que l'actualité, c'est celle-là, et que Google a fait ses 25 ans et que du coup, on se dit, bah tiens, on va parler de ça, mais ça pourrait être un tout autre sujet également. Donc, restez-nous fidèles et vous pourrez le découvrir dans les semaines à venir si toutefois je retrouve des chroniqueurs pour faire le prochain épisode. Ça, c'est encore un autre problème. C'est un appel, effectivement. Donc un appel au chroniqueur d'abord et puis au public peut-être après, on ne sait pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un abécédaire comme d'habitude qui commence par exemple avec la lettre D comme déprécié. Je le dis en français. Parce que Aurélien a fait le malin, évidemment, mais D comme déprécié, parce que effectivement Microsoft a choisi d'enterrer WordPad, tout fait rire. Écoutez, c'est votre boulot finalement de causer. Hein. Aurélien, vas-y, lance-toi. Pourquoi?
Je voulais que tu continues ta phrase parce que
je l'ai fait.
WordPad, virgule. La surface WordPad. Duo.
Non, je voulais m'arrêter après WordPad. Le reste, c'est ton travail.
Et le créateur de PowerPoint.
Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs choses qui disparaissent, en fait. Ouais.
Voilà, c'est une triple news. On inaugure. Oui, alors pour commencer, Microsoft a annoncé cette semaine la mort annoncée de la surface Duo. Rappelez-vous. Une espèce de double téléphone pliable en son centre en forme de tablette qu'elle avait sorti le 2 octobre 2019. C'était un joli petit produit pour un.
J'aimais bien.
À mon avis, ouais. Essayer de marcher sur les plates-bandes des iPads, notamment. Voilà, ça n'a pas. Bon, il y a eu des soucis techniques, ça n'a pas rencontré le public que ça devait rencontrer. Ça faisait pourtant, voilà, très tablette, c'est 5 mm d'épaisseur, c'était vraiment, vous imaginez, un petit livre que vous pouviez refermer en son centre. 5 mm d'épaisseur, je l'ai dit, deux écrans OLED, des interactions avec Windows, un peu comme Apple, hein, vous savez, ouais. L'environnement iOS d'un iPad à un Mac, voilà, ça parle bien. Il n'y avait qu'un capteur photo qui était à l'avant, ce qui était un peu, voilà, moi je trouve un peu bête. Donc voilà, ça n'a pas rencontré, c'était assez cher, ça n'a pas rencontré son public.
Alors déjà, tu sais bien, moi les charnières... à part
oui,
sur les portes.
C'est pas ton truc.
C'est pas mon truc. Là, les, c'était pas un écran pliant pour le coup, hein. C'était deux écrans distincts.
Deux écrans, oui.
Donc là, il y a peut-être moins de risques mécaniques. En même temps, à une époque où le public s'attend à avoir des écrans pliants, pliables, bah c'était un peu, enfin ça faisait un peu des,
mort dans l'œuf.
Un peu mort dans l'œuf, oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça m'étonne pas trop que ce produit soit abandonné finalement.
Mais en tous les cas, il y a beaucoup. Moi, dans le monde professionnel, je vois beaucoup de gens avec des Surfaces.
C'est vrai. Oui, des Surfaces, oui.
Oui, mais des Surfaces de haut, beaucoup moins. Mais en tous les cas, Surface, c'est un truc.
La Surface a bien rentré dans les mœurs. Oui.
Ouais. Donc, pour les possesseurs de ce genre de truc, de ce genre d'objet, il y a quand même il y a plus de support. Il y aura plus de support, plus de vente, plus rien. Mais il y a une communauté quand même derrière qui est assez forte et qui va permettre le déploiement d'Android 13 et peut-être de Windows 11. Donc voilà, si vous êtes possesseur de ce genre
de device,
ouais, n'hésitez pas à regarder bien sur le net. Il y a de quoi s'en servir encore. Deuxième news, WordPad. Alors là, c'est ça me rappelle plein de choses. Bah, le début de Windows 95, tout ça, hein, souvenez-vous.
Ouais.
WordPad, le petit traitement de texte était inclus dans Windows 95, donc Microsoft dit c'est fini, on n'y touche plus, on n'y touchera plus, et il ne sera plus. Alors j'ai regardé, hein, moi je suis encore sous Windows 10, il existe encore, hein, vous pouvez vous taper menu démarrer WordPad, vous l'avez. Hein, et donc, ils disent de maintenant, vous voulez du texte enrichi, c'est Word, vous voulez du TXT, c'est Notepad. Ou les autres,
c'est,
hein, mais
c'est,
en tout cas...
c'est tout l'un ou tout l'autre.
Voilà, c'est rustique ou la Rolls. Entre deux, t'as pas.
Je voyais quelqu'un sur Mastodon qui commentait cette news, puisque ça fait partie des infos qu'on partage sur nos réseaux, hein, puisque notre veille technologique est en partage sur les réseaux sociaux, tels que Mastodon, et quelqu'un qui disait bah, « on va coder sur Word alors
». Oui, non. Alors, faut savoir que c'est sorti avec Windows 95, mais c'est un vieux projet. Alors oui, là, de 1985, il y avait... Alors, c'était certainement sur Windows 3.1, un Microsoft Write, peut-être, vous parle. Donc, voilà, on parle de choses où il y a la possibilité de mettre en gras, de souligner, il n'y a pas de correcteur orthographique.
Hein, non.
Chose, ouais. Mais, enfin, je me souviens avoir commencé sur WordPad à écrire des lettres. Ça me fait une petite.
Oui, c'était. Alors, il y avait des traitements de texte déjà, même sous DOS, hein, qui existaient, mais ça, c'était avant Word, hein, c'était un traitement de texte gratuit, puisqu'il était livré avec l'OS, et donc, ça permettait, comme ça, de directement s'y mettre, d'imprimer des courriers, son CV, etc., etc., et puis ça s'est développé. Ça m'a toujours un peu étonné qu'il le conserve quand même en parallèle de Word. Mais bon, pourquoi pas
ouais, on faisait pas les mêmes choses non plus.
Non, c'est ça. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça permettait de commencer, quoi.
Oui, voilà, monsieur, même tout le monde qui achetait un PC, son premier PC qui avait Windows 95, il avait acheté l'imprimante qui allait à côté et avec ça, il écrivait ses courriers.
Il n'avait plus les sous pour acheter Word.
Il avait juste les sous pour acheter le port parallèle. Hein,
oui, c'est ça. Et encore.
Et je parle donc, de ça, il y a peut-être des gens qui ne savent même pas ce que c'est. C'est vrai.
Et l'autre disparition.
Troisième news, Dennis Austin, 76 ans, qui avec Robert Gaskin, en 85, avait commencé à travailler sur l'ancêtre de PowerPoint Presenter. Alors ça me fait bien rigoler de penser qu'en 85, il y a des gens qui se sont dit « Ouh là là, les vidéoprojecteurs, c'est un peu dépassé, hein. Souvenez-vous, moi j'ai connu ça aussi, les grandes lampes avec les glaces transparentes au-dessus et le petit miroir qu'on venait ajuster. »
Le rétroprojecteur.
Le rétroprojecteur.
L'époque.
Et donc, il y en a qui s'étaient dit, avec l'avènement de l'informatique, on va supprimer le rétroprojecteur pour en faire un vidéoprojecteur, on va créer un truc en 85, ça s'appellera Presenter.
Ouais.
Et ils se sont fait racheter en 87 par Microsoft, qui les a intégrés dans leur développements de Microsoft à l'époque.
Ouais. Ça manquait dans la suite d'outils.
Voilà. Et en 90, Microsoft PowerPoint sortait. Et alors, pour finir, est-ce que vous savez combien Parce que maintenant, Microsoft est capable de... Vous savez, tout est dans le cloud, donc Microsoft est capable de vous dire combien il y a de présentations qui sont créées quotidiennement PowerPoint.
J'ai l'article sous les yeux, je ne vais pas le dire. C'est triché.
C'est 30 millions
30 millions de présentations sont créées quotidiennement avec le logiciel.
Alors,
que de temps perdu.
Voilà.
Quel gâchis.
Oui, il y en a qui comprendront.
Parce que c'est quand même... Le nombre de présentations où la personne qui a fait la présentation se sent obligée de vous lire les slides de la présentation sans aucune valeur ajoutée.
Ou les assistants... Le rétroprojecteur, c'était quand même vachement mieux.
C'était vachement mieux. Ou les assistants...
Avec le ventilateur qui faisait voler la feuille.
Ou les assistants de direction qui sont obligés de faire des présentations avec des petites animations, etc. pour un patron qui ne sait absolument pas de quoi il veut parler. Oui, le rétroprojecteur, effectivement, il y avait le ventilateur sur le côté qui faisait voler les feuilles que tu posais sur le côté. Ça, je me rappelle très bien. Et la lampe qui claquait, évidemment, toujours dès le moment où tu voulais...
Au moment où
on va faire la présentation, t'allumes...
Et moi, j'ai vu... Alors, je me souviens au collège... Il y avait un espèce d'écran, alors je ne sais pas exactement quelle était la technologie, un écran transparent que tu posais sur le rétroprojecteur.
Oui.
Et tu pouvais, je ne sais pas comment, alors s'il y en a en
commentaire... C'était à cristaux liquides. C'était un écran à cristaux liquides, et donc, mais sans fond, donc transparent, enfin, un peu comme le e-ink aujourd'hui. Hein, et donc, tu pouvais afficher une image comme sur un écran, mais en noir et blanc, sur le rétroprojecteur. C'était déjà c'était très élaboré. Alors, je tiens à préciser, je vous ai dit qu'il y a un sujet de fond un peu plus long que les autres. Ce n'était pas celui-ci. Passe au sujet suivant, comme électricité, alors que j'ai perdu ma conduite. Électricité, c'est quand des bactéries produisent du jus, quand on s'entend, hein, du jus, ça veut dire du courant. Oui.
On est entre techos, c'est pour ça.
Oui, et donc c'est une invention suisse dont tu vas nous parler.
Exactement. Exactement. Je voulais juste faire référence à ce sujet-là pour notre ami Aurélien. Aujourd'hui, j'étais sur la route, il y a un gars qui n'arrêtait pas de me dire « charnière, charnière ». Je regarde dans le dictionnaire, espèce de gond. Voilà, ça, elle est faite. C'était simplement pour dire
je regrette
que
de ne pas avoir trouvé la petite musique « totum, totum ».
Voilà. Tout ça pour dire que je trouvais bien ce produit de chez Microsoft, paix à son âme. Oui. Je parlais du Surface Duo. Alors, je vais vous parler de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Je vous ai sorti deux liens, celui qui concerne effectivement la news dont on va parler maintenant, mais aussi une ancienne, parce que j'ai l'impression que nos amis chercheurs de l'EPFL ont une manie, c'est d'essayer d'aller trouver de l'énergie un peu partout. Un des liens que je vous partage, c'est par exemple comment faire de l'énergie avec de l'eau usée et de la lumière qui la traverse. C'est assez complexe, je ne vais pas ici me tenter à expliquer comment ça fonctionne, mais pour le sujet qui nous concerne, ce sont des bactéries qui consommeraient elles aussi de l'eau usée ou des détritus, des choses comme ça, pour que effectivement ces bactéries produisent de l'énergie. Ils n'en sont pas à leurs premiers essais, puisque l'EPFL est aussi sur la réinvention du panneau photovoltaïque.
Il y a par exemple
des brevets de peinture ou de surface qui viennent sur les vitres de vos fenêtres pour pas dénaturer le bâtiment, dénaturer votre toiture, pour pouvoir profiter de la lumière qu'on a tous à travers les vitres de nos fenêtres. Et là, pour le coup, je trouve assez intéressant parce qu'effectivement, le coût des bactéries, c'est un double usage. C'est effectivement générer de l'énergie. Alors, on n'en est qu'au stade de laboratoire. Hein. N'imaginez pas que l'eau de pluie, ou bien le petit ruisseau, ou bien les égouts deviennent une centrale électrique qui alimente toute une ville. Mais à terme, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? L'autonomie énergétique, ça serait une piste à creuser. Mais ça promet parce qu'en fait, ce que dit l'article, c'est que c'est je mets des grosses guillemets, j'aime bien faire ce geste, je leur fais un hein, pour ceux qui ont l'image, que c'est relativement accessible, relativement faisable de mettre en place de tels procédés pour pouvoir effectivement transformer la production de ces bactéries en énergie. Donc, allez faire un tour sur les liens, vous allez trouver d'autres liens qui font référence à d'autres recherches. Moi, je suis en admiration par rapport à ce qui se fait à l'EPFL sur la recherche et la diversité des moyens qui existeraient pour faire de l'énergie. Ça colle à l'actu qui est là, toute fraîche, de oui, ce qui sûr. Se passe dans mon pays, puisqu'effectivement, le canton du Valais, qui est le canton qui voit naître le Rhône, hein, qui se jette à Marseille, pour la petite histoire, ben, le Rhône, il est suisse avant tout, eh bien, le canton du Valais est un des endroits les plus ensoleillés de notre pays. Et le canton vient de refuser par référendum, par votation, l'implémentation de panneaux solaires en altitude et en montagne. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'il y a eu des projets pilotes sur, par exemple, des panneaux solaires flottants sur de l'eau de barrage, par exemple, pour profiter d'avoir une double énergie. Quand on est en montagne, les panneaux photovoltaïques sont plus efficients, hein, je vous apprends peut-être rien du tout. Mmh. Et c'est dans la suite logique qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va mettre des panneaux solaires sur les versants de nos montagnes, sur des installations, on va dire, qui normalement ne devaient pas perturber le paysage. Enfin, ça a été refusé, et puis un des partis a sorti un slogan à des votants, enfin un parti contre ce projet, a sorti un slogan que je trouve pas inutile, les panneaux solaires pas dans la nature, mais sur nos toitures. Parce qu'effectivement, la Confédération, notre pays se réveille dans l'idée de mieux aider la transition énergétique, donc toute nouvelle construction ici en Suisse devra comporter une installation photovoltaïque, que ce soit calorifère ou électrique, et puis on va vers... Alors encore une fois, je mets les grosses guillemets sur une simplicité des installations sur des bâtiments existants.
Voilà, et donc, des bâtiments existants et qui ne doivent pas être eux-mêmes des structures portant des panneaux photovoltaïques. Mais... C'est de l'habitation ou des bureaux, quoi. En gros, c'est
ça l'idée. Oui, et puis on va peut-être aussi copier nos amis français que je trouve très très futés sur ce coup-là, puisqu'effectivement en France, une installation qui ne dépasse pas les 2 mètres peut être facilement installée. Par exemple, vous avez un jardin, vous mettez un châssis porteur, vous mettez vos panneaux solaires, vous injectez ça pour faire de l'autoconsommation, youpla boum, c'est parti. La Suisse se réveille par rapport à ça, et donc je voulais simplement aussi féliciter le PFL qui cherche plein de pistes. Moi, il me passionne dans ce qu'ils font.
Chez nous, en Belgique, l'installation de panneaux solaires ailleurs que sur une toiture existante est soumise à un permis de bâtir, je pense. Si tu fais une structure au fond de ton jardin juste pour mettre des panneaux solaires, tu dois en tout cas en faire la demande au niveau de ta commune ou autre. Parce que sinon, les gens font n'importe quoi. Mais en même temps, c'est vrai qu'une petite structure qui ne mange pas de pain au-dessus de ton potager, à côté de ton potager. Je dis au-dessus de ton potager parce que je pensais aussi à l'agro. Photovoltaïsme qui permet de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des champs et de, par le moyen de systèmes mécaniques, d'ouvrir et de fermer la lumière en fonction de...
Voilà, oui, puis les panneaux bifaces aussi. Les panneaux bifaces qui permettent de monter jusqu'à 30% d'efficacité en dessous du panneau par réflexion pour travailler sur les deux surfaces s'ils ne sont pas collés contre quelque chose, puisque si ces panneaux chauffent, effectivement, ils baissent en efficacité.
Ouais. Et un truc qui chauffe, toi, tu t'y connais. Aurélien, tu avais un truc à rajouter ou pas du tout? Non, c'était juste un mot à dire.
En France, on voit beaucoup de parkings d'entreprises qui couvrent leur parking.
Il y a des primes en France pour ça.
Ouais. Oui. Mais des surfaces...
Oui, ça peut être des très très grands parkings. Ça peut être une petite entreprise qui a 4-5 places de parking, comme tu peux avoir des champs de parking, un hôpital par exemple, ou un aérodrome qui pourrait avoir son parking.
Il y a des business... Il y a des gros business statues.
Voilà, c'est ça. C'est pourvu qu'on ne fasse pas venir les panneaux de Chine, évidemment. Ça, c'est un autre débat, évidemment. Passons à la suite, si vous voulez bien. F comme France Identité. Aurélien a gardé cette cette habitude, on va dire ça comme ça, quand on dit c'est une lettre, un mot, non, lui, il en faut toujours un peu plus, mais c'est la France aussi en même temps. Et la France a souvent tendance à faire comme ça des France identité, tu vois, des trucs un peu qui, voilà,
France tricot. France tracteur.
France électricité de France. Voilà. Identité, Aurélien. France, numérisez votre pièce d'identité, mais pas pour tout. Donc, c'est la carte d'identité électronique, c'est ça dont on parle ou pas ?
Alors, la carte d'identité en France, donc, comme dans tout pays, je pense qu'il y en a des papiers d'identité. Depuis un... je ne vais pas dire de bêtises. Depuis quelques années, on est passé de la carte d'identité balèze, petite carte postale, à la carte d'identité carte de crédit. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien. Très bien.
Et ben, on va passer le next step maintenant, c'est la carte d'identité numérique dans son portable, dans son téléphone.
D'accord.
Et donc, alors je sais, ça peut vous faire rire, vous Belges et Suisses, parce que mais nous, on est en retard là, non ? Par rapport
oui.
à vous.
Ah, oui, donc, je pense à ça, parce que nous, on l'a eu avant vous et tout ça.
Oui, oui, je sais, bah oui, mais je dois informer mon pays.
Alors que c'est un français, et c'est ça le comble, c'est que c'est un français qui a inventé la puce de la carte à puce que l'on retrouve sur la carte d'identité en Belgique. Donc voilà, disons que les Français ont inventé la puce de la carte à puce et les Belges et les Suisses ont trouvé quoi en faire. C'est ça l'idée. Je charrie.
Ça ouais. Bon donc la France et l'État a sorti l'application France Identité sur iPhone et Android. Oui. Qui est encore en version bêta, mais pourquoi ils ont fait ça ? Parce que il y a encore un tas d'endroits où on vous fait des photocopies de votre carte d'identité.
Oui.
Vous allez louer une voiture, le loueur, il prend votre carte d'identité, il va à la photocopieuse, il fait une photocopie, et a priori, ce genre d'endroit, c'est l'endroit rêvé pour faire des usurpations d'identité. Donc, voilà, le but, le but, c'est de se servir de France Identité, donc de l'application, pour numériser sa carte d'identité grâce à la puce NFC qui est dedans et de pouvoir faire un tas de prouver son identité dans différentes situations de la vie. Par exemple, retirer un colis, par exemple, louer une voiture, par exemple... prouver son âge dans un
ne dis pas on va rester monétisé
non.
un débit de boisson
ah oui ça va
ah oui n'est pas ça de bonjour YouTube
donc et la cerise sur le gâteau de ce truc là c'est que cette application vous permettra aussi d'utiliser France Connect c'est un système d'identification global qui vous permet sur un tas d'applications de l'État, la sécurité sociale, les impôts, ce genre de truc, c'est une identification unifiée qui sera permise grâce à France Connect. Donc vous pourrez, comme je l'ai dit, récupérer des colis, prouver votre âge, servir d'alternative à la photocopie, notamment quand vous louez une voiture, mais si vous vous faites arrêter par la police...
Vous ne pouvez pas
montrer votre téléphone. Il faudra la vraie carte d'identité. Donc voilà, il y a du plus, il y a du moins.
Oui, mais je suis assez d'accord avec toi pour le coup, parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on a une carte d'identité numérique et on commence seulement à vraiment s'en servir. Enfin, on commence, donc ça fait quelques années, mais voilà, ça s'installe relativement lentement dans les us et coutumes, etc. Un membre de l'équipe qui en parlerait mille fois mieux que moi, évidemment, c'est un de nos Sébastien, puisqu'il travaille autour de ce concept.
Ah, oui,
mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a quelque chose dans la proposition de France Identité, qui est presque l'étape suivante déjà, qui est la dématérialisation de la carte d'identité, si j'ose dire, qui peut avoir du bon aussi, qui doit être contrôlé, soyons clairs, il doit y avoir quelque chose. Mais par exemple, si tu fais une photocopie de l'écran, si tu as besoin d'une photocopie d'une copie de l'écran, tu pourrais très bien introduire dedans, et je pense que c'est un peu l'idée, introduire une information unique pour la personne avec qui tu partages ton identité. Comme ça, si jamais ils essayent de s'en servir dans un autre contexte, tu peux dire, ah ben c'est monsieur machin qui a utilisé, à qui j'avais donné mon identité pour louer la voiture, qui s'en est servi pour acheter des bitcoins, ou je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça l'idée. Donc je trouve qu'il y a un petit quelque chose derrière qui me semble pas inintéressant à analyser. Ça mériterait d'en reparler à l'occasion, peut-être dans un sujet plus long, justement. Je sais pas ce qu'on pense, Thierry, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Non, on va pas en parler là, mais. Un jour, peut-être, pourquoi pas. Donc, on a commencé en se moquant et on sort de là instruit, fort.
Je dis bravo.
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Voilà. Vive la France.
Et l'identité. I comme iPhone, avec un I minuscule, bien entendu, Thierry. Oui. Quand c'est ou pas l'heure d'un nouvel iPhone, c'était la keynote de la semaine. On n'en a pas fait le sujet principal de cet épisode, parce qu'on ne fait plus ça depuis très longtemps, parce qu'il y a très peu de choses à dire en général. Moi, j'ai un truc à dire quand même par rapport à l'iPhone 15. Je ne sais pas si tu l'as dans tes tablettes, mais je te laisse, c'est ton sujet, finalement, c'est eux qui bossent. Donc, on t'écoute tout pour toi.
Alors, je vous propose de faire un résumé de cette keynote que j'ai suivie de long large par une série de mots-clés qui amènent tout de suite une petite réflexion. Alors, dans le premier mot-clé, j'ai plan large. Et oui, Apple s'est fendu d'une réalisation vidéo magnifique, fantastique. Il y a même effectivement de belles images. Je crois qu'ils aiment bien montrer les paysages. J'ai reconnu San Francisco, des rues vides parce qu'ils ont dû payer un max, mais surtout The Circle. Voilà. Je crois qu'ils aiment bien se faire plaisir au niveau image. Form factor, oui, c'est le deuxième hashtag, ça gueule déjà sur les internets, le form factor de la nouvelle Apple Watch, et ben il change pas. Voilà, c'est un peu décevant de voir que cette montre monte en puissance. Alors, je mets de nouveau des grosses guillemets, vous allez comprendre pourquoi après avec un autre mot-clé. Monte en puissance aussi côté prix. Ça commence à faire mal d'acheter une Apple Watch. Sincèrement, là, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, pour les haters, pour ceux qui veulent se lâcher dans les commentaires, allez-y, j'adore la marque Apple. Voilà, je suis fils d'horloger, je porte une Apple Watch. Donc, j'ai pas peur du ridicule, mais là, il faut pas nous prendre pour des... Bon, voilà, green, oui, parce que voilà, Apple se la joue bonne conscience avec l'écologie, des matières recyclées, des batteries plus efficaces, de la récup du machin, etc. On a même une star de l'audiovisuel qui vient faire la morale à toute l'équipe d'Apple. Même Tim Cook a l'air d'être vraiment très crédible dans le rôle du monsieur qui se fait taper sur les doigts parce que voilà, il faut qu'il fasse attention à notre planète. D'ailleurs, une des présentations est faite dans un immense champ de panneaux photovoltaïques. Ça m'a fait sourire. Acteur studio, voilà, ça c'est pour me moquer de Tim Cook et de tous ses collègues qui jouent cette petite séquence qui est franchement ridicule. Alors, j'ai pas vu beaucoup de gens sur la toile se moquer de cette scène, mais allez la voir si vous avez le temps. C'est assez poilant. Dynamic Island, vous savez, cette petite encoche qui est en haut des écrans, qu'on a même hérité sur certains ordinateurs, ça me fait marrer de voir que c'est une innovation fantastique parce que ça se dynamise, ça se fait ci, ça fait ça.
Je pense que des alertes sur fond noir. Il y a des podcasteurs spécialisés en produits Apple qui vont en faire 15-20 minutes, rien que de ça.
Ah oui, oui. Là, moi, je fais un exercice de faire tenir ça en 12 secondes. Mais
oui, parce qu'on est chez les technos et qu'on perd pas notre temps. Voilà,
un autre terme que je suis obligé de mettre dans ma liste de mots-clés, c'est bullshit. Malheureusement, effectivement, on commence à avoir un discours chez Apple qui commence méchamment à ressembler à du bullshitage. USB-C, par exemple. Voilà, c'est l'autre mot-clé qui vient tout de suite derrière. C'est génial, l'USB-C, c'est plus rapide, c'est pratique.
Ah bah oui, maintenant, il faut le vendre.
Ah bah oui, mon gars, t'es obligé de mettre l'USB-C. Arrête de nous vendre ça comme une espèce d'innovation, puisqu'en fait,
ceci dit, on te l'a imposé. Je vais glisser ici, si tu veux, comme ça tu peux reprendre un peu ton souffle, parce que t'es vieux et que tu as du mal avec ta respiration.
Oui, j'ai
puis ton altitude, manque d'air, etc.
Non, oui, ce que je voulais dire,
je lisais un article assez intéressant, c'est que tu vas pouvoir, avec ton iPhone 15, grâce à l'USB-C, entre autres, enregistrer ta séquence vidéo directement sur un support externe. un disque dur ou une clé USB externe. En 4K, 60 images par seconde. Ce qui est quand même pas à dédaigner quand tu es créateur de contenu, etc. Parce que ça te permet quand même, parce qu'on sait combien ils vendent aussi leur mémoire hein, chez Apple. Quand tu passes d'une mémoire à une autre, ils te multiplient le prix par deux. Donc ça peut-être être une option de se dire, tiens, je vais pas prendre le truc avec le plus de capacité de stockage parce que je vais stocker sur un disque externe qui par ailleurs va bien fonctionner aussi et va me permettre surtout de transférer mes fichiers plus facilement vers un ordinateur pour les éditer.
Ça peut se défendre.
Par exemple.
Ça peut se défendre.
Voilà. Moi, je pense que ça se défend.
Oui, et puis en même temps, l'iCloud qui monte en puissance. Et on va très vite sur l'offre de prix qui va avec parce qu'on n'a pas envie de se faire taper sur les doigts. Ça m'a fait sourire. PC, ça c'est l'autre mot-clé. Voilà, les présentations de chez Apple ressemblent de plus en plus à des présentations de PC. On parle de technique, de technologie, de processeur et tout ça. J'ai peur que là, on fasse un petit peu, on saoule un petit peu l'audience parce qu'on est vraiment je l'ai noté plus loin, concours de la quéquette la plus longue, la puissance, la technologie, le machin, le truc. Ça me fait sourire. Le suivant, c'est le brevet. Je voulais faire mon intéressant avec un accessoire que j'aurais mis ici autour de mon poignet parce que c'est pas la première fois que je pense que je paye Apple pour l'aider à développer des choses parce que j'ai investi dans plein de projets Kickstarter et je voulais faire mon intéressant avec mon brassard Mio, mon Armband sur lequel j'avais investi puisque maintenant avec votre montre, vous pouvez faire un double tap comme ceci pour des fonctionnalités. Alors, ça existait déjà, les gars. Allez voir dans les réglages de votre Apple Watch, vous pouvez déjà faire des choses.
Donc c'est une gestuelle pour ceux qui nous écoutent, pour être clair. Tu fais une gestuelle particulière pour lancer une commande.
Tu tapotes sur l'index et le pouce, et vous le faites deux fois, par exemple, pour fermer une alerte,
comme si on cliquait,
pour accrocher, etc. Voilà, comme si on cliquait. Ouais. Là, j'ai mis brevet parce que je me demande si on l'avait pas hérité justement de ce bracelet qui faisait beaucoup, beaucoup plus de choses que simplement raccrocher. J'ai mis cinéma parce qu'effectivement, il y a tout ce qui va autour de la prod. On a un petit peu vu effectivement des choses sur, comme tu le dis, cet iPhone qui est bourré aux stéroïdes pour faire des choses. Je dois reconnaître que les capacités vidéo de cet appareil, là je parle de l'iPhone 15 parce que je ne parle plus de l'Apple Watch, font un petit peu réfléchir. Il y a de l'intelligence artificielle.
Pour les initiés, c'est quand même du ProRes 10 bits qui te sort.
Oui, ça commence à être du lourd. Et c'est vrai que prendre une photo, même si après en post-prod on peut corriger la chose, l'iPhone va reconnaître le sujet et va directement passer par exemple au mode portrait. C'est vrai que ça devient... Alors là, je parle du Max, du Pro, celui avec trois objectifs, trois optiques. Ça fait mal au porte-monnaie, par contre,
au rein,
pour ce qui est des prix. Voilà, au rein, parce que j'en ai déjà vendu 4. C'est le prochain mot-clé, c'est tarif, parce qu'effectivement, on s'en prend plein la poire. Et le dernier mot-clé, c'est satellite, parce que j'étais très fier d'entendre le mot Suisse dans la présentation, dans la keynote, puisqu'effectivement, l'Espagne et la Suisse rejoignent les pays dans lesquels vous pouvez faire de l'appel d'urgence satellite depuis
votre smartphone. Ça, c'est pas mal. On va pas dire le contraire dans un pays comme le tien. Dans des zones un peu isolées, etc. C'est pas la zone la plus facile à couvrir, ni en FM, ni en GSM. Donc, on va pas non plus. Voilà, satellite, c'est quand même de bon ton et c'est une bonne idée. Donc, c'était une bonne keynote, quoi, si je comprends bien.
Oui.
Au bout de course, c'était pas non plus la fin du monde. Certains se sont étonnés qu'il n'y avait finalement que deux produits cette année dans cette keynote. Sur cette keynote-ci, c'était quand même un petit peu limite. On a un peu la keynote de trop. Aurait-il un truc à annoncer qu'ils n'ont pas pu annoncer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de... Bon, je pense aux lunettes, par exemple, etc.
Oui, alors on en a fait référence. C'est venu
plusieurs fois, bien sûr.
Les bruits de couloir disent on préfère attendre qu'il y ait assez d'app sur le store pour sortir les lunettes.
Il faut que la dev se bouge le pet. Se bouge, en gros.
J'ai le vœu pieux de revenir du CES avec une paire de ces lunettes en janvier.
Qui me fait penser, et si notre ami Stuff nous écoute, il m'avait laissé un message sur notre Slack, il fait du développement justement pour les lunettes. Et donc on aura peut-être l'occasion de se remettre en contact un de ces quatre pour en parler éventuellement. Dites-nous en commentaire si ce sujet vous intéresse, ce pourrait être effectivement l'occasion d'inviter Steph dans un épisode pour justement
Aurélien
parler.
Aurélien avait levé la main,
une votation. Sujet iPhone, Enfin, je sais pas, en France.
Et puis on passe à la suite, hein, parce que.
Oui. Sujet iPhone. Oui. En France, a, ça a bien buzzé sur l'iPhone 12 pour les problématiques qui va être retirées de la vente. Hein.
Directement faux problème parce que les normes françaises sont hallucinantes. Il y a une norme, alors j'ai plus l'unité en tête qui est de 30, je sais plus quoi,
etc. Oui, oui.
Et la France exige que ce soit 3.
Oui, 10 fois moins.
C'est 10 fois moins, oui, mais c'est une norme, c'est, enfin, je sais pas, c'est logarithmique, et donc du coup, c'est encore beaucoup, beaucoup moins, c'est 300 000 fois moins, quelque chose comme ça. Donc c'est complètement ahurissant. Alors certes, c'est une norme, hein, on est bien d'accord, mais ils sont à 4,7, je crois, quelque chose comme ça. Donc, et bien d'autres appareils ont eu le même problème. Hein, et c'est
oui, il y a Samsung qui s'est fait taper sur les doigts, et qui a payé une amende mirobolique de 7500 euros.
Oui, mais en plus de ça, ça se corrige au niveau software, paraît-il. Donc, c'est pas non plus la fin du monde. C'est un petit peu, c'était l'occasion, et certains l'ont dit d'ailleurs dans la presse, même classique, c'est marrant qu'on en parle maintenant. Ça fait un an hein, qu'on en parle de ce truc-là, de l'iPhone 12. Hein. On en parle juste maintenant parce qu'il y a une keynote. C'est quand même bizarre, hein. C'est particulier quand même. Il y a un peu de l'Apple bashing dans l'air, donc on va pas non plus en faire des louches.
Tu crois?
La lettre L comme... et on va avancer, hein, les gars, parce qu'on fait les épisodes de plus en plus longs, en fait. L comme Liquid Neuronal Network, LNN. Aurélien, de quoi s'agit-il?
Alors, de réseau de neurones liquides. Alors, quand j'ai vu ça, et je remercie Sébastien pour m'avoir partagé cette news, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais de quoi il s'agit? Il faut mettre un tiers de rhum, deux tiers de... Non. Alors, non. Ouais, on arrête. Ça n'a rien à voir avec du liquide. Ça n'a rien à voir avec du liquide. En fait, c'est le laboratoire d'intelligence artificielle, le CSAIL du MIT, donc aux États-Unis, qui vient de créer un nouveau type de modèle de deep learning. Alors, je vous rappelle, le deep learning, vous montrez un exemple simple, vous montrez des photos
de chat,
c'est l'exemple classique, à une intelligence artificielle.
On va changer, je sens que ça t'énerve, On va montrer des photos de marteau.
De marteau, alors vous dites ça c'est un marteau, okay. Ça c'est pas un marteau, et ouais, en lui faisant ingérer une très grande quantité de photos, et en lui faisant apprendre, il va pouvoir dire ça c'est un marteau, ça c'est pas un marteau.
Ça, c'est un marteau de charpentier, ça c'est un marteau de... Voilà.
Le problème c'est que pour ça il faut beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul, et beaucoup de mémoire. Oui. Et il y a le constat il est là, c'est qu'il y a plein d'endroits où on pourrait mettre de l'intelligence artificielle où on n'a pas de mémoire et on n'a pas de puissance de calcul monstrueuse. Je prends le cas de vos futures voitures par exemple. Et donc le but c'est d'arriver à faire le même résultat avec très peu de mémoire et très peu de puissance de calcul. Donc là, que ce soit un truc très compact. Donc là ils ont travaillé sur une application qui est alors de maintenir une voiture sur sa voie avec des capteurs que vous pouvez avoir dans votre voiture de vision. Aujourd'hui, un modèle classique, il faudrait environ 100 000 neurones et un demi-million de paramètres. Ce qui fait qu'en fait, c'est un modèle qui est gros, qui nécessite beaucoup de puissance et qui est ininterprétable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter tout l'arbre pour dire bah, il a choisi cette décision là parce que sur cette image là on avait dit ça. Et donc ils arrivent à faire la même chose avec 19 neurones, ce qui fait qu'on arrive très vite à comprendre pourquoi il a dit que c'était pourquoi c'était un marteau ou pourquoi c'était pas un marteau. Donc voilà, donc on est sur vraiment un nouveau type de réseau de neurones beaucoup plus petit et qui pourra être mis sur du edge computing. Je rappelle, le edge computing c'est du calcul en temps réel directement dans le device et non pas remonter par le cloud sur un serveur ou sur une grosse centrale de calcul. Ce nouveau modèle, il permet aussi d'apprendre dans des conditions de contexte différents. Par exemple, ils ont cherché à reconnaître des objets dans la forêt en été. Je parle une feuille, une branche.
Un marteau.
Un marteau, si tu veux. Et cette façon d'apprendre est moins sensible au contexte, donc Ils ont envoyé ensuite des images de forêt en automne, en hiver, là où ça peut être complètement différent, hein, il n'y a plus de feuilles et autres, et il est beaucoup plus adaptable. Donc voilà, je vous invite à regarder, il y a notamment une interview d'une professeure de MIT avec ses doctorants qui explique comment ils ont eu l'idée et tout, c'est passionnant. Bon, je ne suis pas allé jusqu'à essayer de comprendre algorithmiquement comment ça fonctionnait, mais en tous les cas, je pense qu'il y a des grands, grands pas qui sont en train d'être faits dans ces domaines-là, ouais. Et des très grands pas qui vont faire que ça sera implanté sur des puces qu'on aura avec nous, sur nous, dans nos voitures et autres.
Dans nos smartphones.
Là où je suis un peu plus critique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des voitures qui ont des systèmes de suivi de lignes blanches qui fonctionnent très bien, qui sont dans nos rues, et il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans, ça marche.
Ouais.
Pourquoi on est obligé de nous mettre de l'intelligence artificielle à toutes les sauces tout le temps avec
ça,
des capteurs qui...
Tu prenais l'exemple en disant il faut 100 000 neurones pour arriver à faire ça. Moi, je suis d'accord, mais sans faire offense à la corporation des chauffeurs de taxi ou de camion, tu vois ce que je veux dire?
Oui, je suis d'accord.
19...
C'est un exemple de labo.
19 neurones peuvent suffire, du coup. Tu vois, non, j'ai dit sans faire offense. J'ai pris toutes les précautions possibles. C'est bien plus compliqué de faire une marche arrière, par exemple. Tu vois,
surtout dans quel sens tourner le volant quand t'es en marche arrière?
Oui, aussi. Et où tu l'as fait sur l'autoroute? On plaisante, mais on est sur des réseaux neuronaux. Non, il ne faut pas comparer avec l'intelligence humaine. C'est la manière. C'est un peu comme quand on disait le nombre de transistors. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, ça se comprend en même temps et on voit tout de suite la différence entre 100 000 et 19 et que si on arrive à le faire avec 19, c'est mieux que 100 000. Enfin, c'est plus économique à tout niveau. On peut le comprendre aussi. Donc ça, c'est pour nous les aussi que nous sommes, pour nous faire comprendre les trucs un peu facilement. Et si vous voulez aller plus loin, effectivement, tu as raison de le signaler aussi. On met toutes nos sources, hein, comme toujours, hein, dans le descriptif de l'épisode, que ce soit sur votre plateforme de podcast ou sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, eh bien, vous aurez accès au site lebigdata.fr et le lien vers l'article qui a inspiré cette intervention de notre ami Aurélien. Voilà, on a été complet, on passe à la suite. La lettre V, comme vidéo. Thierry, quand tu n'as plus besoin... Non, t'as plus besoin de la monteuse sympathique qui t'attend pour dire « Tiens, on va monter ton sujet, Marc. Oui, on peut y aller. » Non, c'est fini, c'est terminé.
Ça a eu payé, c'est fini ce temps-là. Alors, c'est une petite news, je vais la traiter très rapidement.
C'est bien.
L'IA, ce terme, hein, on le sert à toutes les sauces. La possibilité de créer de la vidéo prend deux pistes. La première, c'est je veux un paysage avec un cow-boy qui passe au loin, le coucher de soleil, etc. Et l'intelligence artificielle, Dieu sait que j'aime pas ce terme, va générer de toutes pièces cette vidéo, tant bien que mal. J'ai vu pas mal de choses, c'est franchement pas regardable, mais il y a des trucs drôles, parce qu'effectivement, ben voilà, il sait toujours pas faire des choses, on va dire, esthétiquement correctes. Et il y a cette deuxième piste qui est assez intéressante, celle de générer des vidéos sur la base de texte, mais en allant piocher sur des contenus qui existent déjà. C'est-à-dire, en fait, peut-être que le paysage avec le Grand Canyon ou la montagne dans la prairie de ce décor américain, le cow-boy qui passe devant, existe déjà. Ouais. Et on va pouvoir se faciliter la vie, parce qu'effectivement, moi, j'ai toujours été fan des DAM. Qu'est-ce que c'est, les DAM? Alors, c'est pas la monteuse, hein, DAM, D-A-M.
Fromage.
Digital Asset. Amsterdam. Non, le Digital Asset Management. Je rêvais d'avoir un serveur pour stocker mes assets, comme on dit en bon français, c'est-à-dire les photos, les vidéos, et tout ça, il faut le contextualiser, il faut des mots-clés, il faut décrire le truc, etc. Ouais. Là, l'intelligence artificielle vient nous aider sacrément, puisqu'elle est capable d'aller chercher des vidéos, des extraits, des photos, des éléments qui existent déjà. Il y a quelques petites démos que vous allez trouver sur Internet où on voit le iStock photo dans l'image. Donc, en fait, après, on pourrait se dire, ben voilà, ça tient la route par rapport à la vidéo que j'ai. Alors, n'allez pas faire un grand film avec ça, mais c'est plutôt de la vidéo vite fait pour un petit produit. On a de l'image d'illustration, on en voit de plus en plus. Ça recommence aussi à ressembler à de la bouillie, même quand c'est fait à la main, mais bon, voilà. Mais par contre, on peut gagner du temps, puis après se dire, bah tiens, je vais acheter ce track, celui-là, 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 et on va pouvoir faire de la vidéo à la chaîne. On va, je pense, vers une technologie qui nous permettra d'industrialiser tout ça. Moi qui ai fait des milliers, j'allais dire des centaines, mais c'est plutôt des milliers, des dizaines de milliers de montages, je peux plus, j'ai plus la niaque pour le faire. J'adore ces petites solutions, par exemple, où vous mettez des morceaux de vidéo et puis ça aligne sur la vidéo avec le son, la musique, etc. Mmh. C'est certes pas du montage, mais ça fait la blague. Et dans des usages en marketing, en com, bah, ça peut marcher. Donc voilà, l'IA s'invite dans ce genre d'outils, de services en ligne, hein, c'est tout du SaaS, forcément. Mais je dois reconnaître que ces prémices sont assez, comment dire, assez prometteurs. Oui. Je ne vais pas faire de pub pour un service en particulier parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La liste est super longue. Il y en a beaucoup.
Sachez aussi qu'au niveau professionnel, dans ce qu'on appelle l'asset management, pour le coup, tout ce qui est archivage vidéo, ça commence à rentrer aussi, justement, pour indexer correctement le contenu. Et quand on fait une recherche parce qu'on a besoin de cette vieille image de tel président des États-Unis qui avait un chat sur la pelouse de la Maison Blanche, eh bien, il va aller le retrouver et isoler le chat et isoler le président et voilà, etc. Et ça permet évidemment d'aller plus vite aussi au niveau du montage et d'intégrer et tondre la pelouse après.
La news.
Tondre la news. Après, on peut tondre.
Tondre la news.
On peut, mais c'est pas obligé. Juste une petite incise avant de passer au dossier du jour, si vous le voulez bien. J'ai rajouté un petit truc. Alors, je n'ai rien préparé, parce que évidemment, j'écoutais tout ce que je buvais, les paroles de notre ami. faut dire. Je tape lestechno.be au hasard.
Comme
par hasard. Et j'arrive sur le site lestechno.be et sur le côté droit, vous avez ici un bouton qui est. Alors il faut vous faire un torticolis pour lire parce que c'est comme ça. C'est envoyer un message vocal qu'il est indiqué. Et donc cliquez dessus, vous avez une petite boîte en anglais parce que c'est un service qui nous est offert par SpikePipe en l'occurrence et qui permet d'un petit peu customiser leur boîte mais pas tout. Donc c'est en partie en anglais, en partie en français. Et vous cliquez sur Start Recording, je pense que ça me paraît assez clair, et vous pouvez nous laisser un petit message de 3 minutes. Donc,
c'est sympa.
Si vous avez le temps, si vous avez envie de dire un truc sympa, peut-être que vous pourrez vous entendre dans un prochain épisode des Technos. Peut-être.
Mais ça, c'est une belle surprise.
C'est une expérimentation expérimentale. Hein. Si ça fonctionne, on la mettra un petit peu plus en avant. Mais là, je voulais juste le faire là, comme ça, vite fait, bien fait, entre l'ABCDR et le dossier, entre...
Marc.
Oui.
Vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Oui, c'est ça.
Oui, tout à fait.
vous n'attendez pas à des réponses tout de suite, mais peut-être qu'on en parlera, on en reparlera dans un épisode. Allez, on passe au dossier. Cette semaine, et c'est mes petits camarades qui ont choisi, le dossier est consacré à Google, puisque Google fête déjà son quart de siècle, les amis, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Oui. On a décidé de... Parce que la dernière fois, le dossier était un peu touffu. 15 minutes, normalement, ça devrait suffire, non? On va essayer. On va commencer avec Aurélien. Et commençons par le début, justement, la genèse.
Oui.
Ça a commencé par quoi, Google? Tout le monde le sait, mais on va
commencer. Le 4 septembre 1998, un projet de garage de deux étudiants, Sergey Brin et Larry Page. Alors, je passe.
Sergey, pardon.
Brin. Maintenant, c'est
breton.
Breton de l'Ouest. Bon, oui,
ça commence.
Ouais. Non, mais Google, vous imaginez que ces gars-là, ils ont inventé Google et qui est devenu Google, et aujourd'hui, bah, on dit googliser, c'est passé dans le dictionnaire et tout. Enfin,
c'est là.
Non, franchement, j'y repensé encore tout à l'heure.
Ça fait peur, hein.
Quand j'ai préparé le dossier, je me suis dit, mais c'est voilà, ces deux gars, ils sont partis, ils ont inventé un algo dont je vais parler juste après, et après il y a eu toute la suite. Franchement,
on va en parler d'ailleurs la suite.
Des gars femmes qu'il y a maintenant, Je ouais. pense surtout au F. Moi, je ouais. retiendrai que le G. Hein. Il y a, enfin, c'est, une, entre, c'est une superbe ah, entre, une histoire.
On va y revenir. Donc, cet algorithme.
Je vous rappelle, oui, je vous rappelle au début, en 95, le net, c'était balbutiant, et peu de gens avaient accès. Et il y avait de plus en plus de sites, mais par contre, il fallait connaître l'adresse du site pour y aller. Ouais. Et donc, il y a eu des annuaires qui se sont créés, genre Yahoo, qui listaient les sites, et donc vous cherchiez les technos.
Oui, parce que à cette époque-là, je faisais déjà ce genre de métier et j'allais référencer les sites pour lesquels je bossais. J'allais les référencer à la main chez Yahoo, oui. chez AltaVista, chez etc.
Voilà. Alors donc voilà. Donc il y a eu Yahoo. Vous vous souvenez aussi, j'avais parlé. Thierry, tu te souviens, on a parlé du trombone l'autre fois. Il y a aussi le chien Lycos. Vous avez oublié le chien Lycos.
Lycos.
Voilà. Et AltaVista en 95, c'est commencé. Ouais. Qui a ouais. commencé à faire de l'indexation et c'était ouais. AltaVista, c'était à l'époque assez populaire. Le problème, c'est que il y a eu 5 propriétaires en 5 ans et que ça s'est tombé. Ouais. Et
c'était un truc inerte. Hein, c'était au bon vouloir de celui. Voilà, il y avait des petites mains qui les remplissaient, quoi, les informations.
Oui, ouais. Voilà. Ouais. C'est ces deux étudiants de Stanford qui en 95. Se sont dit, on va. Les annuaires donnent pas des résultats pertinents, on va trouver une autre solution. Donc le premier nom, c'était Backrub. Et donc, ils ont inventé ce PageRank. Alors, ce PageRank, c'est quoi? Alors, c'était justement Page par rapport à Larry Page. C'était que les premiers moteurs de recherche, vous cherchiez tomate, il allait vous ressortir des pages dans lesquelles il y avait beaucoup de fois le mot tomate qui apparaissait. Ouais. Le page rank, c'est différent, c'est le nombre de liens qui pointent vers cette page. Et ces mêmes liens, combien de fois il y a de liens qui pointent vers ces pages, qui pointent vers la page qu'on recherche. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on arrive à un ranking et à un classement. Et évidemment, c'est grâce à ça que Google a eu ses lettres de noblesse, puisque sur plein de recherches, ils étaient beaucoup plus pertinents que les autres moteurs de recherche de l'époque. Et donc, en 99, 4 ans, il y avait déjà 3 millions de recherches par jour. Donc, même au niveau infrastructure, vous imaginez que ça devait être déjà un sacré truc. Je vais laisser la parole à Thierry maintenant.
Ah, si tu veux, oui, on peut. Thierry, justement, puisque tu commençais à en parler, Aurélien, la progression, parce que là, t'as parlé de l'algorithme qui était un gros chapitre, on va dire, qui a permis à Google d'exister déjà dans la tête des gens. Hein, mais il y a eu d'autres choses qui se sont venues se rajouter au moteur de recherche et des projets qui sont venus sortir de la tête des ingénieurs de chez Google, mais aussi des idées de rachat, des choses comme ça. Et ça, tu peux nous en parler un peu plus.
Exactement. On s'était promis de pas jouer la séquence vieux con, mais ça nous rend un peu nostalgique. Et en plus, pour la petite histoire, cette année, on fête les 25 ans de plein de boîtes dans la tech. C'est assez fou de réaliser à quel point, effectivement, le monde a avancé.
Une charnière, on est à une charnière.
On y revient. On est une charnière du bruit. Exactement. Allez voir les débuts de ce podcast, vous comprendrez. Ouais. Non, on est plus précisément, en fait, il y a eu très vite, il me semble, chez Google, la volonté de diversifier les produits. Et il y a un truc assez drôle dans l'histoire de Google, c'est que jamais ils ont pensé faire de l'argent ou faire de la pub, dans le sens où ils sont vraiment partis de l'idée de bosser sur des services qui allaient rendre service aux utilisateurs. Alors après, ça fait bizarre de savoir que « don't be evil », Don't be the devil, je crois, c'était le slogan. Ouais. Ils sont devenus, il y a eu effectivement, comme tu le dis, Marc, des rachats. Moi, je me rappelle de Google Vidéo, qui était les prémices de YouTube. J'en aurais voulu de laisser tomber cette plateforme et puis d'avoir acheté YouTube, puisqu'effectivement, ils ont laissé tomber un truc qui n'était pas trop mal. Dans les coups de gueule, moi, je pourrais parler aussi de ce fameux outil qu'on adorait, Google Reader, et puis après leur rachat, et puis la modification, puis après l'abandon du News Feed Reader, qui nous permettait d'indexer, travailler, tripoter du flux RSS. Le flux RSS qui n'est pas leur invention, hein, pour la petite histoire, non. Si jamais, puisqu'effectivement, ils n'ont pas eu de peine, hein, pendant leurs années d'existence d'aller se rattacher sur des technologies. Et puis, je me demande si Google n'est pas devenu too big to fail. Je reparlerai à la fin de ce dossier. Je connais déjà la réponse, vous la connaissez aussi, mais de partir dans l'idée d'essayer d'être un peu jeune, puisqu'ils se sont lancés dans les réseaux sociaux, ils ont essayé avec Google Plus, mais il y a eu plein
qu'est-ce qu'on a
ri.
Mais qu'est-ce qu'on a
Mais oui, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Il y avait les Circles, il y avait Google+, il y avait Jaiku. J'ai vu que Orkut, c'était aussi un truc qu'ils avaient essayé de bricoler, racheter ou en tout cas essayer de pousser. Je vous parle pas des fameuses lunettes. Alors pour le coup, je vais pas trop leur jeter la pierre parce que les Google Glass,
c'est particulier.
Ils étaient trop tôt.
Oui.
Voilà, c'était particulier.
On en avait déjà parlé avec un autre chroniqueur, et effectivement, on est arrivé à cette conclusion.
Ouais, et puis dans l'ensemble, tout ce marasme de services, de produits, de machins, de trucs, a eu peut-être la vocation de restructurer leur organisation, et Alphabet est né pour essayer de se dire, bah, tiens, on va mettre un branding sur tout ça. Mais ça n'a pas marché. En tout cas, le public, il ne sait pas ce que c'est Alphabet, il pense toujours Google. Il y a un point sur lequel, moi, je dis chapeau dans toutes ces pistes qu'ils ont essayé d'explorer, c'est cette invention d'un système d'exploitation. Android a été un sacré événement dans l'histoire de Google. Oui. Maintenant, ça leur dessert pour toutes sortes de raisons, comme par exemple imposer un moteur de recherche ou bricoler des versions d'Android.
Oui, mais ils sont tous passés par là. Microsoft en premier.
Peut-être pas Apple, parce qu'Apple était sorti d'un OS qui était très très fermé. Ils sont allés sur du Unix BSD System 5. Ils ont pris le pari d'aller sur du Unix. Ça, c'était grâce à Next qu'avait lancé Steve Jobs. Et Android, moi, je dois reconnaître que ça a été un petit peu le DOS du mobile, le DOS de certains appareils, comme la domotique. Là, je dis chapeau à Google. Mais je crois que Aurélien a envie de réagir.
Et je voulais juste un petit mot, parce que tu as cité, je dirais, les 10, peut-être une dizaine de gros échecs.
La liste est super longue.
Ouais. Ah, moi, j'ai la liste. J'ai fait la liste.
Oui, il y a Google Buzz, il y a Dodge.
Ah non, mais je vais te dire, j'en ai 166.
Ouais. Ouais, voilà.
Et ils sont tous référencés. C'est ça qui est bien. Ils sont tous référencés. Yeah. Ouais. Donc, le fameux Google Cemetery dans lequel toutes les fails de Google sont référencés. Donc, voilà. Donc, ça, on sait. Ça, c'est fait.
Ça coûte cher en fleurs, là, tout ça, mais...
Oui, parce que là, il y a à peu près 166, à peu près tous les deux jours, tu vas chez le fleuriste, quoi.
C'est un bon domicile.
En fait, moi, je voulais dézoomer, parce qu'on a parlé moteur de recherche. Donc, oui, ils ont un très bon moteur de recherche qui indexe très bien. Bon, ils ont été obligés, pour gagner leur vie, de mettre la pub et de monétiser... Enfin, oui, de...
Je ne sais pas s'ils étaient obligés.
Mettre de la pub payante. Mais là où, pour moi, il y a un coup de génie, c'est Chrome, déjà, qui en 2008 n'était rien, et qui en 2012 était déjà la majorité des utilisateurs, des navigateurs, ils avaient plus de 50%. Aujourd'hui, Chrome, c'est 60, c'est une grosse majorité.
C'est impressionnant parce que, tu as raison, il y a un truc qui le montre très bien. On a tous déjà vu ça, ce petit gif animé de Motion qui montre la progression de quelque chose par rapport à son environnement. Il y a ça pour toutes sortes de domaines. Et il y en avait une petite animation comme ça par rapport aux différents types de navigateurs, avec des navigateurs qui n'existent plus d'ailleurs dedans. Et on voit la progression de Chrome qui, comme une flèche, dépasse tout le monde sur la longueur, et tous les autres qui disent OK, monsieur, on va vous laisser passer.
Et toujours avec le même précepte, parce que rappelez-vous, hein, la page Google, quand elle est sortie, et la page Google d'aujourd'hui, vous avez toujours le logo, la barre de recherche, les boutons, et Ça n'a jamais changé. La présentation des résultats, ça a très peu changé. Ils veulent quelque chose de simple, de fluide, de rapide.
Du point de vue du design, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, ce qui est derrière, ça a quand même quand
le moteur,
oui.
Ça, oui,
oui dans le coffre, il y a...
Et donc, Chrome, alors, il y a des détracteurs, il y a eu des failles de sécurité, il y a eu un tas de choses. De toute façon, tout le monde en a. Mais quand vous regardez Chrome, qui n'était pas le cœur de métier de Google, puisque c'était faire un navigateur, c'est quand même un autre métier que d'indexer des pages. Oui. Ça a été une épopée. Et aujourd'hui, avec le nombre d'extensions Chrome qui existent, le moteur Chromium et tout ce qui est derrière, c'est très, très largement répandu. Et
le moteur Chromium qui est devenu presque hégémonique, on le retrouve même dans Edge, etc. Donc,
Donc, comme le disait Thierry, Android est aussi un deuxième exemple de chose qui n'était pas dans le cœur de Google au début, qui maintenant est sur une très très large majorité, c'est 80%, et même plus que ça, c'est que Android, c'est quelque chose qui est open source. C'est quelque chose que chaque fabricant de téléphone, de tablette, reprend à sa sauce, remet une surcouche. Et par là, il maîtrise énormément, énormément de choses.
Oui, mais par rapport à la concurrence d'Apple, il y a ce problème de, justement, ce qui est profitable est aussi, pas un échec, mais un écueil, c'est qu'il ne maîtrise pas le hardware, et que donc, du coup, tu te retrouves avec des fossés monstrueux, enfin des horribles chez certains fabricants, où tu passes de version à une autre.
Oui, mais tu vas le trouver. Tu vas le trouver aussi sur iOS. Regarde avec ce qui se passe avec l'Europe, qui demande à Apple d'ouvrir des stores alternatifs. Il y a plein de gens.
Oui, mais c'est pas fait.
De jeux vidéo qui se réjouissent.
On est d'accord. C'est une demande, mais c'est pas fait.
Mais ouais. Imaginons que ça se passe. Ça va être le gros boxon. Ça va être compliqué de garantir la fiabilité des apps et tout. On a vu sur le Play Store. Il y a eu pas mal d'abus, il y a eu des failles, il y a eu des apps pourries, il y a eu beaucoup de hacks.
Pourtant, ils ont fait le ménage.
Oui, mais en même temps, sur Android, tu charges une app en APK et puis tu passes à côté.
Oui.
Sur Apple, c'est quand même bien régenté. C'est pas pour dire que c'est mieux. Hein. Mais le fait qu'ils se doivent s'ouvrir.
Cette fiabilité-là, moi.
Le monopole, voilà. Ouais.
Donc,
je suis curieux de savoir ce que ça va donner.
Autant, parce qu'on a les quatre figures, enfin, même parmi les chroniqueurs ici chez les technos, on en connaît et je les comprends et ils ont raison de le dire, qu'ils aiment l'esprit plus ouvert d'Android qui permet de faire même des erreurs. Ça, je l'entends. Et puis, il y a les autres, moi j'en fais partie, je ne m'en cache pas, qui préfèrent avoir quelque part un outil plus fermé,
cadré. Certes,
plus fermé, plus cadré, avec moins de problèmes.
Ouais.
Moins de risques, en tout cas. Moins de problèmes, ça reste à définir, ce qu'est un problème. Mais en tout cas, un risque moins accru, même si personne n'est à l'abri. Mais voilà.
Il y a une sécurisation accrue.
Voilà.
Bon, voilà. Oui, mais en même temps,
ne fait pas si d'Android un mauvais produit. Hein.
Mais si on se met à réfléchir deux minutes, on réalise que le boulot pour certifier des apps, pour passer la rampe de l'admission
des
dans un store, c'est juste incroyable. Pour la petite histoire, j'ai remis en route un de mes devices sur iOS, je reprends le backup en ligne, et puis d'un coup, je vois une des apps qui est plus possible, plus téléchargeable, puis je me rappelle ce qu'elle faisait, c'était un développeur russe, c'est un browser qui permettait d'avoir une alternative à Safari, mais comme par hasard, ce browser, tu allais sur un lien précis et tu pouvais regarder du streaming sans passer par la case « je dépense de l'argent ». Donc, qu'est-ce qui fait que ce genre d'app a pu voir le jour sur iOS, qui est normalement bien cadré, bien contrôlé, puis que tout compte fait, enfin, peut-être des années ou des mois plus tard, elle soit éjectée. Android, on a toujours eu l'impression que c'était un petit peu la foire à la saucisse, tu pouvais faire un peu tout et n'importe quoi. Encore des gens qui se font avoir.
Oui, bien sûr. Et quand tu vois, quand tu développes une application par où il faut passer pour pouvoir la publier d'un côté chez Apple et de l'autre côté chez Google, on voit tout de suite où sont les contraintes et là où il y en a, on va dire moins, il y en a aussi. Hein, c'est parce qu'ils sont de plus en plus regardants, évidemment.
Et le prix n'est pas le même non plus.
Et c'est pas tout à fait la même chose non plus, effectivement, tu fais bien de le dire. Thierry, on a parlé du passé, du présent. Le futur. Ouais.
Le futur, il n'est pas forcément très rose, je pense, pour Google, parce qu'on a parlé de belles choses, ils ont fait pas mal de choses. Et là, je ne vais pas parler de technologie, je vais parler du facteur humain. Google se fait de plus en plus taper sur les doigts, hein, j'ai utilisé le terme too big to fail, se fait de plus en plus taper sur les doigts sur comment ça se passe au sein de ces, bah, de ces travailleurs, de ces développeurs, de ces organisations. Il fut un temps, Google faisait rêver les travailleurs, les développeurs, mais force est de constater qu'il y a de plus en plus de soucis chez cette firme. Alors, pour les défendre, ça arrive dans toutes les bonnes crèmeries, mais c'est vrai que quand, comme tu le disais, Aurélien, un des membres des GAFAM, et on devrait dire plutôt des GAMAM, puisque Facebook c'est maintenant Meta, mais bon,
Ah.
c'est moi qui fais, voilà, qui m'amuse à faire un petit peu mon intéressant, c'est monnaie courante. Il y a eu des
On devrait
bruits,
même
par
dire des
exemple,
hammams. Oui,
Oui,
alphabet.
t'as raison, t'as raison. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est pas resté, tiens, c'est bizarre.
Mais
Ouais, non, mais
c'était
quand on va
l'entreprise
gratter,
Babyfoot
on...
à l'époque.
Oui.
Non, mais c'est vrai, hein.
C'est fou parce qu'effectivement, passer une taille d'entreprise, on a vu ça chez Amazon, on a vu chez Google, ça arrive de plus en plus maintenant, on a vu ça chez Apple, même s'ils essayent de bien étouffer, il y a quand même des gens qui ont haussé un petit peu le ton. Les conditions de travail, l'environnement de travail, la pression, mais aussi le manque de comment dire, de marge de manœuvre. Moi, je me rappelle avoir visité une fois un centre Google, celui de Zurich, qui est, pour la petite histoire, je fais mon intéressant, le deuxième site le plus grand au monde pour le dev de YouTube. Donc, si jamais tu as des griefs, Marc, à formuler chez nos amis de YouTube, j'ai des potes à Zurich qui travaillent
Ah
là-bas.
bah, maintenant qu'il
Voilà.
le dit.
Non, mais clairement, ces employés, on leur dit, tu peux utiliser X% de ton temps de travail pour faire du side project, monter des trucs. Oui, il y a un toboggan. Oui, il y a de la bouffe maximum tous les 10 mètres, et puis c'est gratos. Il y a une crèche, il y a ci, il y a ça.
C'est pour les stagiaires.
Mais ouais, ça marche de moins en moins. Je pense que
C'est pour les
ça
stagiaires.
parle de moins en moins.
Moi,
On
c'est
a
ce qu'on
eu
m'a
un
dit.
truc en ce
Je
moment.
connais deux personnes qui ont bossé, justement, un qui était en stage et une qui était graphiste, je pense, chez Google, et qui me disait, c'est les stagiaires qui ont du temps, les stagiaires et les journalistes qui viennent en visite. Pour eux, c'est juste parfait. Mais nous, on bosse 12 heures par jour, quoi, en gros, parce que ça marche avec des points, si tu voilà. Enfin, c'est pas aussi idyllique qu'on l'imagine. Et moi, ça me fait toujours un petit peu rire quand dans les entreprises aujourd'hui, on te dit, oui, mais nous, on fonctionne à la Google. Et je mets aussi des gros astérix, des gros
Les grosses guillemets.
guillemets. Parce que si on travaille à la Google, ça doit pas être top, quoi. Moi, c'est ce que je me dis quand on me dit ça. Je dis, oh là là, je préférerais qu'on travaille à la IBM, presque.
À la techno.
Ou à la techno,
Ah ouais, la
détendue,
techno.
cool, quoi. Mais
Ouais.
Non, mais voilà,
Non,
c'est
mais
comme quoi, mais c'est.
s'il fallait prédire l'avenir, je dirais que ces boîtes deviennent énormes. Il y a,
Oui, et c'est
chez
ça,
Apple,
oui.
j'en ai pas fait une news, mais il y a des bruits qui courent sur l'idée de changer l'actionnariat, la valeur des actions, etc.
Oui.
On est dans des phénomènes de très trop grosses structures,
Rappelle-toi.
et c'est peut-être les prochaines étapes de ces boîtes.
Au moment des élections américaines, me semble-t-il, c'était revenu
Oui.
sur la table l'idée de démanteler Alphabet, parce que c'est tellement
Oui.
massif, il y a
Trump
tellement
s'était
d'activités.
pris,
Il y avait une question
Trump s'était pris clairement contre Google.
de saucissonner le truc, Facebook aussi, l'idée un regroupement trop important des sociétés avec trop de tenants aboutissants, etc., qui devient hégémonique dans certains domaines. Le domaine de la publicité, par exemple, alors ils sont pas tout seuls, mais il y a un gap énorme entre eux et le numéro 2, quoi. Tu vois, donc ça pose plein de questions, effectivement. Autant de pouvoir dans une seule entreprise. Alors, Larry Page et son complice
Sergey.
Ne sont plus dans le process, entre guillemets, même si de temps en temps il y en a l'un ou l'autre qui critique ou qui laisse un petit message sur X ou ailleurs. Mais voilà, c'était une success story qui valait la peine d'être remise. Un peu,
Un petit
justement,
peu
l'occasion.
dans le.
Alors
Il n'y en a pas du tout.
ce sujet-là est fermé. On en reparle dans 25 ans, si vous voulez bien.
Oui, on se revoit dans 25 ans. Avec
Parce
plaisir.
que bon, c'est bon comme ça. Et c'est ce qui conclut d'ailleurs, quelque part, cet épisode. Puisque voilà, il faut bien une conclusion à un moment donné. 413e épisode des Technos. Il y aura un épisode si tout va bien, 414. La semaine prochaine, je vous le disais, avec deux autres chroniqueurs, j'en ai un. J'attends que le deuxième se montre, parce que sinon on va avoir un petit souci. Mais pour la rentrée, enfin pour les premiers épisodes, c'est pas cool. Mais on espère en tout cas que ce format renouvelé vous plaît. En tout cas, on a déjà eu quelques retours sur le premier épisode. On espère que
oui, c'était bien sympa. Merci à vous.
Tout autant positif pour cet épisode-ci. Merci en tout cas à Aurélien. Merci Thierry pour toutes ces news. Si vous avez des informations à nous communiquer, à partager, etc., n'hésitez pas. On est là. Les réseaux sociaux sont faits pour vous. Partout où on se trouve, page Facebook, X, Mastodon, Telegram, Epic et Collegram, comme maintenant je le rappelle chaque fois. Merci à tous les deux. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt.
Salut.
Salut. Ciao.